Voilà, alors il y a eu différents choix. On va pas les analyser. C'était juste voilà pour nous pour se faire une petite idée. Mais voilà, en ce début d'année 2021, en tout cas mon souhait pour moi, mon souhait pour chacun de nous consiste en une prière que l'on trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et j'aimerais vraiment m'associer à cette prière. Cette prière, elle est exprimée dans une lettre de l'apôtre Paul, qu'il a écrit personnellement à des chrétiens d'une ville, donc c'est les chrétiens de Colosse, qui se trouvaient donc en Asie mineure, ce qui correspond aujourd'hui, pour situer à peu près, donc dans la Turquie actuelle. Alors pour se remettre rapidement dans le contexte de cette lettre. Donc il commence cette lettre par des salutations hein, introductives. Et juste avant ce qu'il veut demander à Dieu pour ses frères et sœurs, Paul dit aux chrétiens de cette ville qu'il exprime souvent sa reconnaissance à Dieu. Alors pourquoi? Paul est reconnaissant parce qu'il a entendu dire que ses frères et sœurs de Colosse ont pris conscience, en entendant l'évangile, de ce qui les attend quand Jésus reviendra. Et cela a un impact dans leur vie quotidienne. Cela a un impact dans leur relation avec Dieu. Donc leur foi grandit. Et cela a un impact dans leur relation entre eux, avec leurs frères et sœurs de l'Église. Et cela se manifeste par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et en fait, on a juste envie de dire, waouh, c'est excellent tout ça. Des chrétiens qui vivent leur vie présente à la lumière de l'éternité, qui ont conscience de ce vers quoi ils vont et de voir combien ça impacte leur vie présente. C'est quelque chose effectivement d'encourageant et on peut comprendre la reconnaissance de l'apôtre Paul. Et derrière, Paul va faire une demande à Dieu. Et quand on voit ce pourquoi Paul est reconnaissant, on peut se dire, mais qu'est-ce que Paul peut bien vouloir demander de plus à Dieu pour ses chrétiens? Et on peut en tout cas se rappeler aussi que dans le contexte de cette lettre, ce n'est pas Paul qui a fondé cette église, mais cette église a certainement été fondée par un collaborateur de Paul, qui s'appelle Epaphras et qui est mentionné donc dans le début de cette lettre aussi. Et voilà, donc des frères et sœurs qu'il n'a jamais rencontrés et voilà, pour lequel il a entendu des nouvelles et il est reconnaissant pour toutes ces choses et il va faire une demande à Dieu pour ses frères et sœurs. Et toujours dans le contexte de cette lettre, il faut juste penser que Paul, il est en prison quand il écrit cette lettre à ses frères et sœurs. Et vous savez, je pense que quand on est en prison, quand on a plus rien à faire en termes d'activité, c'est souvent, à mon avis, un temps favorable pour revenir un petit peu à l'essentiel. Alors là, on n'a pas connu vraiment la prison cette année, on ne va pas parler de cela, mais on est quand même passé par deux confinements. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que parmi les choses qu'on a fait dans ces temps de confinement, c'était justement de réfléchir à finalement qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies. Tellement de choses qu'on ne pouvait plus faire du jour au lendemain et qui nous ont amené, entre autres, certainement à réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel. Quelles sont mes priorités? Je vous invite à lire cette prière de Paul. Et donc, on est dans Colossiens, chapitre 1, et on va lire les versets 9 à 14. Je ne vais pas l'afficher à l'écran, donc si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à le prendre. Et je lis dans la version second 21. Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. C'est la fin de la lecture de la parole de Dieu. Et au travers de cette prière, j'aimerais relever trois choses. La première, c'est une aspiration. La seconde, c'est une motivation. Et la troisième, une concrétisation. Alors, je nous pose la question, à quoi est-ce que Paul aspire pour les croyants de Colosse? Quelle est sa demande à Dieu? Au verset 9. Que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Voilà ce que Paul demande à Dieu pour ses frères et sœurs de Colosse. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul aspire à ce que les chrétiens connaissent pleinement la volonté de Dieu. Alors j'ai une autre question pour nous. Quand quelqu'un dit « je recherche la volonté de Dieu » ou « j'aimerais connaître la volonté de Dieu », à quoi est-ce que cela est régulièrement associé ? Oui, merci pour toutes ces réponses. Et c'est vrai que c'est souvent en lien avec un choix qui concerne notre avenir, le choix d'un boulot, le choix d'un lieu de vie, le choix d'un conjoint, le choix peut-être d'une église, etc. Et c'est vrai que il n'y a rien de mal en soi, et il est même bon de rechercher ce que Dieu a prévu pour nous dans ces domaines. Mais si on pense à la volonté de Dieu qu'en termes de choix et de décisions personnelles pour notre avenir, il me semble que c'est limitatif et on passe à côté de l'essentiel de la volonté de Dieu qui nous a déjà été révélée dans sa parole et qui concerne notre vie de tous les jours. Si on parcourt une autre lettre, par exemple, que Paul a écrite, par exemple la lettre aux Thessaloniciens, regardez ce qu'on peut y lire. Verset 3 et puis ensuite les versets 16 à 18. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Ça, c'est le verset 3. Et verset 16 à 18. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je sois toujours dans la joie. Alors on le sait, c'est pas une joie. Il n'est pas question ici d'une joie qui est liée aux circonstances, mais c'est cette joie qui est liée à notre salut. Est-ce que chaque matin, je me lève heureux en pensant, en me rappelant, en me souvenant que ma vie appartient à Dieu, que mon salut est assuré et que je suis en sécurité? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je le remercie en toutes circonstances. On l'a fait ce matin, mais voilà, en toutes circonstances, ça signifie aussi voilà, dans les bons moments que je traverse dans ma vie, mais aussi dans les moments plus difficiles, je suis appelé à exprimer ma reconnaissance à Dieu. Y a-t-il quelque chose de mauvais pour nous dans ces choses, dans ce que Dieu désire pour nous? Mener une vie sainte, être toujours dans la joie, prier sans cesse, c'est-à-dire lui parler à Dieu sans cesse, le remercier en toutes circonstances. Est-ce que ces choses sont fondamentalement mauvaises? Non, hein. Dieu nous aime profondément. Et sa volonté, tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire pour nous, sont des choses qui sont bonnes parce que Dieu est profondément bon. Le monde qui nous entoure exerce une pression constante sur nous pour que nous nous conformions à ses idées et à ses principes qui sont pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, opposés à ce que Dieu désire pour nous. Et nous avons besoin pour cela, comme l'apôtre Paul le prie, de sagesse et de discernement spirituel. Cette année encore, j'aurai besoin de connaître la volonté de Dieu. Et j'aurai besoin de sagesse et de discernement que seul le Saint-Esprit peut me donner pour effectuer chaque jour des choix qui s'alignent et qui soient en accord avec la volonté de Dieu. Donc c'est donc ma prière pour moi et pour nous, pour cette année, que nous soyons remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Ça passe par le fait de passer régulièrement du temps avec Dieu et de nous mettre à son écoute, de me mettre à son écoute au travers de la lecture de sa parole. Et je vous encourage donc à saisir cette année encore, en 2021, toutes les occasions, même dans nos journées les plus chargées, pour passer du temps avec Dieu. Qu'on soit dans la salle d'attente pour un rendez-vous médical, avant de nous coucher, en se levant le matin, avant de partir au travail, à la pause du travail entre midi et deux. On peut lire la Bible, mais on peut aussi l'écouter. Il y a tellement de moyens qui nous sont donnés pour cela aujourd'hui sur Internet, sur une application de notre téléphone, sur un lecteur MP3. Pourquoi aussi ne pas décider, c'est pour cette année, de lire la Bible avec un frère ou une sœur de l'Église? Vous trouvez quelqu'un avec qui vous pourriez ensemble définir un objectif de lecture pour la semaine à venir, ou pour les deux semaines à venir, ou pour le mois à venir. Et puis, vous décidez, vous vous mettez d'accord pour vous retrouver à un moment donné, dans la semaine, dans le mois, pour échanger et partager sur ce que vous avez lu. Et puis, vous priez ensemble. C'est quelque chose qui est aussi motivant de vivre à deux, parce qu'on peut s'encourager et s'encourager en tout cas à vivre et faire cela. Et puis en plus du culte, le dimanche matin, qui est aussi une occasion d'ouvrir la Bible ensemble, de partager et de nous mettre à l'écoute de Dieu, il y a aussi les groupes de maison, qui sont un autre moment privilégié de la semaine, où on ouvre la Bible ensemble pour la lire, pour la méditer, pour partager et pour prier ensemble, et pour découvrir ensemble ce que Dieu veut nous dire. Alors ne nous privons pas encore en 2021 de ces moments privilégiés que Dieu nous offre. Est-ce que en 2021, j'ai envie, j'ai ce désir de mieux connaître la volonté de Dieu? Alors on peut se poser la question finalement, pourquoi est-ce que c'est important de connaître la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui me motive à connaître la volonté de Dieu? Et on en arrive au deuxième point, au deuxième constat. Paul évoque la motivation derrière cela. Le début du verset 10, pour que les chrétiens plaisent au Seigneur Jésus, je relis le début du verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Paul désire que les chrétiens mènent une vie qui plaise à Dieu. Depuis le jour de notre conversion, nous sommes entrés dans une relation avec Dieu. Nous nous savons pleinement aimés de Dieu et en retour, nous voulons aimer Dieu. Et comment est-ce que on peut montrer à Dieu que l'on aime en faisant ce qui lui plaît? Et c'est de cette manière que fonctionne aussi, il y a sur cette terre, une amitié sincère. Quand j'aime quelqu'un, j'aspire, je désire lui faire plaisir. Si j'aime ma femme, je vais avoir envie de le lui montrer, de lui faire plaisir. Si j'aime mes parents, j'aurai envie de le leur montrer en faisant ce qu'ils me demandent. Je vais aussi essayer de faire plaisir à mon meilleur ami ou à ma meilleure amie. Mais ces relations peuvent parfois être tordues parce qu'on peut aimer par intérêt ou par manipulation, pour manipuler la personne, pour essayer d'obtenir quelque chose en retour. Mais avec Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher quelque chose en retour, puisque nous avons déjà tout reçu de lui. Nous sommes parfaitement aimés de lui, alors que nous ne le méritions pas. C'est son amour pour nous qui est le moteur de notre amour pour lui et de notre désir de lui plaire en retour. Donc connaître la volonté de Dieu va donc nous permettre de savoir comment vivre cette année 2021 pour lui plaire. Concrètement, dans ce que je fais, dans ce que je dis ou dans ce que je pense, je dois en fait constamment me poser cette question, ces questions. Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse? Qu'est-ce qui l'honore ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait ne pas l'honorer? Et si je me pose régulièrement ces questions, je pense que cela aura un impact positif dans mes relations avec ma famille, dans les relations avec mes enfants, avec mon patron, avec mes collègues de travail, avec mes amis et avec mes voisinages. Et ces questions auront aussi forcément une incidence sur mes choix de lecture, sur mes choix de films, certainement sur mes loisirs, sur la manière dont j'utilise mon argent, etc., etc. Est-ce que mon désir cette année est de plaire à Dieu? Et pour que cet objectif de plaire à Dieu soit concret pour les Colossiens, pour les chrétiens de Colosse, Paul va ensuite mentionner quatre caractéristiques d'une vie qui plaît au Seigneur. Concrètement, donc on arrive à la concrétisation, le troisième et dernier point de ce que je veux partager ce matin. Quatre caractéristiques d'une vie qui plaît au Seigneur. Alors, c'est clair, ces quatre caractéristiques ne sont pas exhaustives, il y en a plein d'autres, mais ces quatre-là sont des signes qui montrent ce que veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur, marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Donc la première, la suite du verset 10, les chrétiens portent comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Les chrétiens portent comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Dans une autre de ses lettres encore, Paul dit ceci, il a dit ceci, « Par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » C'est dans la lettre aux Éphésiens. Ce ne sont pas des œuvres qui contribuent à notre salut puisque nous avons été sauvés par grâce. Mais ces œuvres bonnes sont des choses que l'on va faire parce que l'on a été sauvé. Parce que l'on a été sauvé et elles vont être différentes d'un chrétien à un autre. Ces œuvres sont le fruit que l'on porte dans notre vie et ce fruit plaît à Dieu. C'est tout ce qui, dans notre vie, rend gloire à Dieu. Quand on exprime notre reconnaissance, quand on rend service à un frère ou à une sœur dans l'église, quand on passe du temps avec le Seigneur à lire sa parole et bien d'autres choses, quand on marche dans la nature, qu'on s'émerveille devant un paysage, tout cela, ce sont des choses qui rendent gloire à Dieu. Quand on proclame l'évangile autour de nous, quand il y a des milliers de façons de rendre gloire à Dieu. Et voilà, ce sont ces choses qui sont des œuvres qui plaisent à Dieu, qui sont ses fruits dans nos vies. Est-ce que pour cette année 2021, j'ai envie de porter du fruit. La deuxième chose qui caractérise une vie qui plaît au Seigneur, c'est la fin du verset 10. Les chrétiens croissent, grandissent dans la connaissance de Dieu. Paul n'envisage pas des chrétiens qui stagnent, mais des chrétiens qui grandissent dans leur relation avec Dieu. Et en parlant de croissance, de progression dans la connaissance de Dieu, Paul pense donc à la maturité spirituelle. Et en fait, on est face à un cercle vertueux ici. Le chrétien qui cherche à connaître la volonté de Dieu et qui a le désir donc de lui plaire va donc s'engager sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Et plus il obéit, mieux il connaît Dieu et plus il va désirer connaître sa volonté et ainsi de suite. Et nous grandissons toujours plus comme cela dans la connaissance de Dieu. Est-ce que pour cette année 2021, j'ai envie de mieux connaître Dieu? Troisième caractéristique, les chrétiens sont fortifiés par Dieu pour faire preuve d'endurance et de persévérance. Les chrétiens sont fortifiés par Dieu pour faire preuve d'endurance et de persévérance, c'est au verset 11. Quand Paul parle de puissance, il fait souvent référence à la puissance que Dieu a mise en œuvre pour ressusciter son Fils, Jésus-Christ, la puissance qu'il a mise en œuvre pour la résurrection. Et ici, Paul demande que Dieu mette cette puissance au profit des chrétiens pour leur permettre d'avoir plus d'endurance et de persévérance. Étant lui-même en prison, rappelez-vous, Paul savait que les chrétiens de Colosse devraient faire face un jour ou l'autre, si ce n'était pas déjà le cas, à des persécutions et des souffrances de toutes sortes à cause de leur foi. Alors, force est de constater que nous ne vivons pas dans un pays où nous sommes directement persécutés et mis en danger pour notre foi en Dieu. Mais nous pouvons subir de la pression. On peut faire face à une certaine opposition ou même de la moquerie de la part de notre entourage. Certains sont, au moment de leur conversion, rejetés par leur famille à cause de leur foi. Et on prend ce temps aussi chaque année de vivre ce culte autour de l'Église persécutée. On prie aussi régulièrement pour nos frères et sœurs qui, de par le monde, vivent cette réalité de la persécution pour leur foi. Le Seigneur est celui qui va nous fortifier pour nous permettre de rester ferme et de tenir bon face aux épreuves que l'on va être amené à traverser cette année. Et c'est juste extraordinaire parce que l'endurance et la persévérance que Paul, dont Paul parle sont deux qualités qui plaisent à Dieu. Et c'est juste bon de voir qu'en fait, c'est Dieu qui donne lui-même la force de tenir bon et de persévérer. C'est lui qui nous donne qui va nous donner cette force de vivre et ouais, d'expérimenter ces deux qualités. Est-ce que cette année 2021, j'ai envie aussi de tenir ferme et d'être endurant face aux épreuves que je vais peut-être traverser. Et enfin, la quatrième caractéristique, les chrétiens expriment leur reconnaissance au Père. On voit cela au verset 12, des chrétiens qui expriment leur reconnaissance au Père. Exprimer notre reconnaissance à Dieu, c'est se rappeler que Dieu nous a, et je relis les derniers versets de cette prière de Paul, versets 13 à 14, Dieu nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Si Dieu avait estimé que notre besoin principal était d'ordre économique, il nous aurait envoyé un économiste. Si nous avions avant tout besoin de nous distraire, il aurait envoyé un comédien ou un artiste. Mais Dieu savait que notre besoin le plus criant était lié à notre péché, à notre séparation d'avec lui, à notre rébellion. C'est pourquoi il nous a envoyé un sauveur. Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, dans son royaume. Dieu nous a acquis un héritage d'une valeur énorme et tellement précieux. Et une manière de marcher, une manière qui plaît à Dieu, est celle du chrétien qui déborde de reconnaissance pour cette réalité. Est-ce que en cette année 2021, j'ai envie d'être reconnaissant à Dieu? Je conclus. Oui, c'est bien ce à quoi j'aspire pour chacun de nous et pour moi-même en premier, devant cette année qui commence. Que cette année soit l'occasion pour chacun de nous de mieux connaître la volonté de Dieu pour vivre de manière à lui plaire. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui portent du fruit. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui grandissent dans la connaissance de Dieu. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui soient fortifiés par Dieu pour persévérer dans les épreuves que nous aurons à traverser. Et que nous puissions être des hommes et des femmes qui soient pleins de reconnaissance pour le salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut te bénir et te dire merci parce que tu es celui qui nous a sauvés. Tu as fait de nous tes enfants, on l'a encore évoqué ce matin. Merci pour ce salut, merci pour cette nouvelle identité que tu nous as acquise en Jésus-Christ. Merci parce que tout est grâce et Seigneur, on est pleinement reconnaissant pour tout cela. Et oui, tu es notre papa et tu mets dans notre cœur le désir de te plaire, de vivre une vie en retour qui t'honore. Et oui, on veut te prier que cette année qui est devant nous puisse être l'occasion de encore, que ce soit individuellement ou à deux ou à trois ou en tant que communauté quand on se réunit, d'ouvrir ta parole et d'apprendre aussi à mieux connaître ta volonté, à mieux connaître qui tu es. Et que par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes toute la sagesse, tout le discernement pour faire les choix dans notre vie et dans notre quotidien qui vont être des choix qui t'honorent. Oui, on aspire à être ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui portent du fruit, qui grandissent dans notre relation avec toi, qui soient au bénéfice de cette force et de ta puissance pour tenir ferme et tenir bon face aux épreuves auxquelles nous aurons à traverser. Et qui soyons aussi des chrétiens qui soient constamment pleins de reconnaissance aussi pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour ton esprit aussi qui agit dans notre vie et que tu sois vraiment honoré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen.